France Musique.
Merci à vous, cher Christian Merlin, et à la semaine prochaine. La Grande Boutique, enfin l'Opéra de Paris comme on l'appelait déjà au XIXe siècle, est une maison qui rend fou, tout le monde le sait. Mais enfin, même si on en a déjà vécu de l'intérieur les petites manips et les grandes manœuvres, même si on est heureux en Suisse, même si en plus du légendaire palais Garnier il faut lancer un grand vaisseau tout neuf, la Bastille, en lequel on a beaucoup de mal à croire, quand on vous demande d'y venir, on ne dit pas non. Bilan donc de 9 saisons dans le chaudron lyrique par excellence, mémoire d'opéra Hugues Gall, 4e, les années Bastille.
Thank you.
Les Sauvages des Indes galantes, dirigés ici par William Christie en 1999 au Palais Garnier. Bonjour à vous, Hugal.
Bonjour.
Pourquoi les Indes galantes sont si importantes pour vous, que vous vouliez absolument commencer cette émission avec elles?
Parce que c'est le premier opéra que j'ai vu au Palais Garnier dans les années 50, où Maurice Lehmann les avait montés dans une célèbre production qui avait fait les beaux soirs et les beaux jours de l'opéra pendant des années. À telle ancienne, quand on arrivait à Paris, c'était mon cas, j'arrivais de Lausanne, on voyait des affiches des Folies Bergères, dont la revue s'appelait les Dindes Galantes. Enfin, les Indes Galantes étaient d'abord, j'ai peut-être fait la confidence, lorsque j'étais au collège classique cantonal de Lausanne, on apprenait des chœurs, et notamment, on chantait non pas ces Sauvages, mais le magnifique chœur des Incas, et j'ai pour rameau depuis toujours une prédilection, et je tenais absolument à monter une version à l'Opéra Garnier des Indes Galantes. C'était le cas avec André Cherban, sous la direction de William Christie, qui est un merveilleux spécialiste. Il est spécialiste de beaucoup de choses, mais il dirige Rameau admirablement, comme il l'a fait par la suite pour la création des Boréades que j'ai donnée au Palais Garnier. Et donc, voilà, je trouve que Rameau est un monument de la musique mondiale. Ce qui m'amuse, enfin ce qui m'intrigue, c'est que on entend ici en France, sur vos ondes et sur les autres ou ailleurs, on dit « Ah, un programme de musique française, on va entendre... » J'ai jamais entendu dire en Allemagne, quand on donne du Beethoven, du Mahler, un programme de musique allemande, ni d'ailleurs en italien. Ici, on est obligé de s'excuser presque, ou de promouvoir Debussy, Fauré, Gounod dans la musique française. C'est pas une insulte, mais enfin, c'est assez curieux. Nulle part ailleurs, je crois pas qu'en Angleterre, on dit « un British... » programme. Bon, bref, toujours est-il que vive Rameau, et si j'avais à choisir, je ne ferais pas, parce que le fondateur de la firme, comme on dit, c'était Lully. J'aime beaucoup Lully, il y a des choses magnifiques de Lully. Mais enfin, si j'avais à choisir, c'est quand même Rameau que je choisirais.
On a bien compris lors de la précédente émission, Hugal, que vous n'avez pas vraiment choisi l'Opéra de Paris. Enfin, à un moment, vous avez pu y venir, donner quelques avis assez clairs sur la manière dont vous vouliez que l'institution fonctionne. Vous en prenez donc la direction en 1995. Ça va durer 9 ans. Autant au Grand Théâtre de Genève, vous avez été heureux, vous l'avez dit la semaine dernière, autant à l'Opéra de Paris, j'ai l'impression que vous l'avez vécu comme quelque chose de très compliqué. Et pour des raisons qui ne sont pas toujours, on va dire, strictement musicales.
Écoutez... Diriger l'Opéra de Paris, ce n'est pas une partie de plaisir, mais on sait bien ce à quoi on s'attend quand on ambitionne ou quand on vous offre ce challenge. Je savais très bien que je perdais quelques années heureuses, je ne dis pas de vacances, mais enfin 15 années à Genève, c'était derrière moi. Ça m'a donné la force d'ailleurs d'affronter ces 9 années où je n'ai pas été malheureux tous les jours, n'exagérant rien. Mais enfin, il est vrai que la tension... qui surgissait à tout bout de champ, le chantage dans telle catégorie socio-professionnelle, enfin bref, tout ça, j'y étais préparé, j'ai redécouvert ça avec étonnement, je pensais que les choses avaient changé, elles n'avaient pas changé, vive l'éternité, la France reste la France et l'Opéra de Paris à Paris.
Ce que vous n'avez pas aimé, on a déjà un petit peu évoqué simplement la chose la semaine dernière, c'est le dialogue social. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu quand même comment ça se passe, qu'on sache un peu pourquoi on parle tellement de la difficulté des questions syndicales à l'Opéra de Paris?
Écoutez, on enregistre cette émission au moment où les gilets jaunes ne sont pas encore totalement morts. Alors vous m'amusez, l'Opéra de Paris à cet égard n'est pas le contraire de ce côté revendicatif, parfois sympathique, mais avec beaucoup de talent. Le problème de l'Opéra de Paris se trouve circonscrit dans le phénomène suivant, c'est que ça fait maintenant 3 siècles et demi, on le rappelle, que cette institution existe, qu'il n'y a pas de raison qu'elle cesse, personne ne le souhaite, que les personnels qui sont là confusément, même s'ils ignorent l'histoire de leur maison, savent que les directeurs passent et que vont rester. C'est d'ailleurs fort bien comme ça pour la préservation des traditions, même des mauvaises. Le dialogue social serait différent si, comme dans les pays anglo-saxons, après avoir eu des discussions extrêmement vigoureuses et des grèves, souvent beaucoup plus rudes à New York ou à Londres, ou surtout aux États-Unis qu'elles le sont ici, une fois qu'on a signé, on signe un accord collectif, appelons ça une convention, pour 4 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, que sais-je, et pendant le laps de temps prévu par le contrat, les représentants des personnels, syndicaux ou non, sont là pour être les garants de l'application de ces clauses. Or, figurez-vous qu'ici, le droit du travail, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, prévoit ce qu'on appelle le droit de revendication. C'est-à-dire que vous avez signé une convention collective, c'était le cas en 93 que Pierre Berger avait signé pour l'Opéra de Paris, que je n'ai pas remis en cause parce que c'était pas nécessaire d'agiter trop le bocal, et il y avait tout de même un certain nombre de clauses qui étaient satisfaisantes. Notamment la possibilité pour le directeur de programmer 23 matinées le dimanche. Ça m'était important parce que mon idée était de permettre justement aux spectateurs éloignés de Paris de venir éventuellement matiner 23 dimanches. Et quand j'ai voulu mettre en pratique cette clause de la convention qui venait d'être signée, ou à peine, on m'a dit, mais monsieur, il n'en est pas question. J'ai dit, mais comment? Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on l'a signé qu'on avait l'intention de le faire. Il était bien entendu qu'on ne le ferait pas. Et... parce que le droit de revendication existe, tout a été remis en cause. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est particulièrement intolérable. C'est comme ça, il faut vivre avec cette épée de Damoclès en permanence. On peut se faire des sourires, on peut aller présider le comité d'entreprise, etc., etc. Mais enfin, c'était pas le côté agréable de la chose. Finalement, au fond, me direz-vous sans doute, vous n'étiez pas payé pour vous amuser à la tête d'une entreprise que vous aviez accepté de diriger. Je l'ai fait, je ne m'en plains pas. Vous dire que j'étais heureux, non.
René Fleming en Roussalka, la musique d'Antonin Dvorak, ici qu'elle donnait en 2002 à l'Opéra de Paris, dans la mise en scène de Robert Carsen. Il faut qu'on parle de René Fleming, il faut qu'on parle de Carsen. Ça a été quand même deux habitués de l'opéra dans ces périodes-là. Hugal, vous aviez déjà travaillé avec eux, évidemment, les années précédentes à Genève, mais il y a une sorte de fidélité là qui se dessinait avec des artistes quand même, on vient de l'entendre ici, pour René Fleming, carrément exceptionnel.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir... non pas découvert en découvrant une personne, mais enfin, je me suis trouvé au début de la carrière de René Fleming, comme je l'ai raconté, de celle de Robert Carsen, alors pour le coup, qui était peu connu ou pratiquement inconnu en Europe, et je lui ai fait confiance, et il m'a bien rendu ma confiance en montant un certain nombre d'œuvres magnifiquement. À l'opéra, on a vu Nabucco, et là, c'était pour René Fleming, la Roussalka, qui est un de ses grands... en rôle, qu'elle chante comme personne, en tout cas admirablement. Oui, c'était des fidélités, des compagnonnages heureux.
La critique, est-ce que vous avez aimé ça, la critique à l'Opéra de Paris, Hugal? Je rappelle quand même, je ne sais pas si on l'avait dit à la première émission, vous avez été fugacement critique dans votre jeune temps aussi.
Vous savez, alors là, je ne veux pas me vanter d'un titre éminent de critique. Non, j'avais découvert que avoir une carte de presse, ou en tout cas ce qui... en tenait lieu, une lettre d'accréditation me permettait d'avoir des places gratuites et bien placées dans les festivals. Alors, j'avais 20 ans, j'avais trouvé un journal complaisant en Suisse et j'étais fidèle au festival de Salzbourg et au festival de Munich, enfin d'un certain nombre de théâtres. Donc j'ai dû, pour justifier a posteriori de mes places, qui étaient fort bonnes, envoyer des papiers. Alors finalement, évidemment, le petit journal suisse qui s'appelait Le Républicain et qui tirait 2522 exemplaires n'était pas exactement le support qui était digne de ses places. Alors j'avais trouvé, en arrivant à Paris, une connivence, et d'ailleurs plus que ça, avec le directeur, le rédacteur en chef d'un journal qui a disparu maintenant, mais qui a eu ce moment d'importance, c'était les Nouvelles Littéraires. Alors je donnais des papiers aux Nouvelles Littéraires, et un jour le rédacteur en chef m'appelle et me dit « Cher ami, le docteur Schweitzer est mort. » « Ah bon, en quoi ça me concerne ?»« Si, si, on va faire un numéro spécial, on compte sur vous. » pour nous parler ou nous écrire quelque chose sur Schweitzer, organiste. Ah bon ? C'est vrai que le docteur Schweitzer était organiste. Oui. Il jouait de l'orgue au milieu des bambous et des palétuviers, je sais, au cœur de l'Afrique. Alors je me dis, comment faire ? J'ai l'idée de prendre rendez-vous chez lui à Meudon avec le grand organiste de Saint-Sulpice, c'était le successeur de Vidor, comment s'appelle-t-il ? Enfin bref, Dupré, Marcel Dupré, qui était au pupitre de la tribune d'orgue de Saint-Sulpice pendant longtemps. Et je lui dis, maître, je viens vous interroger à propos de Albert Schweitzer qui vient de disparaître. Il me dit, Albert Schweitzer, oui. Et pourquoi? Parce que Albert Schweitzer organise. Il me dit, organiste, vous voulez rire? Je lui dis, comment? Non, Schweitzer touchait de l'orgue, organiste, autre chose. Je suis reparti un peu penaud, en essayant de tirer à la ligne pour faire un papier qui n'était ni fait ni à faire sur le pauvre docteur Albert Schweitzer, dont on ne pensait pas qu'il était un grand collègue dans le milieu exigeant des organismes du moins français.
Enfin, tout ça ne nous dit rien sur la manière dont vous avez apprécié la critique française du temps où vous étiez à l'Opéra de Paris.
Écoutez, j'ai fait avec. Ouais. J'étais heureux des bonnes critiques, moins heureux des mauvaises. J'avais compris comment ça marchait, donc je m'en suis pas formalisé outre mesure. J'avais une indulgence aimable d'un certain nombre de supports, de journaux quotidiens nationaux et puis d'autres quotidiens non moins nationaux qui m'avaient pris en grippe et qui pendant des années m'ont poursuivi de leurs assiduités négatives. Peut-être avaient-ils d'ailleurs raison, on ne peut pas plaire à tout le monde. La conclusion de tout ça, c'est qu'on doit vivre avec ça, que ça fait partie du jeu, que la critique française n'est pas pire qu'une autre, peut-être même meilleure pour ceux qui partagent les opinions des journaux que je ne citerai pas. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est différent. Et bon, puis finalement, la France est grande et j'avais pour moi, dans ce jeu un peu complexe, d'abord de faire mon métier, d'être soutenu par 2700 personnes tous les soirs à la Bastille. La plupart du temps, la salle était pleine. D'avoir su me concilier en tout cas la confiance de ceux qui dirigeaient le pays, qu'ils aient été de gauche ou de droite. Et ensuite, j'avais un rapport alors entretenu et volontaire de ma part avec ce qu'on appelle la PQR, c'est-à-dire que les journaux quotidiens régionaux. Et de temps en temps, on disait du bien de ce que faisait l'Opéra de Paris dans les dernières nouvelles d'Alsace, dans La Voix du Nord, dans Nice Matin ou que sais-je. Dans l'Est républicain, voilà. Alors ça, c'était important parce que ce dont les gens sont peu informés, c'est que finalement, les gens qui comptent, c'est-à-dire ceux qui décident d'un budget ou de la reconduction de quelqu'un à la tête d'une institution, ne lisent jamais les critiques. Ils lisent vaguement peut-être un titre. Mais le ministre qui prend son avion tôt matin à Toulouse ou à Strasbourg et qui a le journal du coin et qui ouvre une page dans laquelle on dit « Tiens, la programmation de l'Opéra de Paris est plutôt bien », ça, il le lit. Et par conséquent, l'antidote aux critiques parfois négatives, peut-être à juste titre de certains titres parisiens, je l'ai trouvé dans ces éditoriaux, dans ces papiers que certains de vos confrères non pas parisiens, mais provinciaux, comme on ne devrait pas dire, me consacrer.
La solitude du pouvoir, on en parle parfois. Tiens, on va l'entendre ici. couronnement de Boris Godounov, Modeste Moussorski, c'était en 2002 à la Bastille. La mise en scène était signée Francesca Zambello. À la direction, c'était James Conlon. Et en Boris, on entendait ici Julian Konstantinov. Une œuvre absolument incroyable. Un chef d'orchestre dont il faut qu'on parle aussi, Hugal, parce que James Conlon a été votre chef, en fait, pendant tout le temps de votre mandat, celui que vous avez choisi.
Oui, je ne suis pas musicien. J'entends la musique, mais je ne suis pas musicien. J'ai pas la prétention de régler tous les problèmes techniques que seul un professionnel peut régler. J'avais besoin d'un conseil et je vais avec James Conlon des rapports toujours confiants. Je le connaissais depuis longtemps. Il est francophile, il parle français, il était heureux de venir à Paris. Contre d'ailleurs l'avis de son agent Wilford, qui pensait qu'on ne faisait pas une carrière en passant par Paris, il n'avait pas pour la France une grande estime. Plus exactement, ça se traduisait souvent par des contrats exorbitants, des habitudes concernant les artistes qu'il autorisait ici. Moi, j'ai fait mes affaires directement avec James et je l'ai eu comme collaborateur et comme ami, comme collaborateur, le mot maintenant est mal connoté. Et pendant toutes ces années, il a dirigé beaucoup de choses, notamment ce Boris Godounov. C'était une œuvre à laquelle il attachait le plus grand prix, moi aussi. Mais Boris Godounov est entré dans les gènes, dans la mémoire de l'orchestre de l'opéra. Et des chœurs, bien sûr.
Tant qu'on est du côté des chefs d'orchestre, pourquoi ne pas avoir gardé Myung Moon Chung qui était là lorsque vous êtes arrivé en 1995?
J'avais eu Myung Moon Chung comme chef d'orchestre au début de mes années genevoises. Il était venu diriger, sans que je l'ai connu, mais sa réputation était déjà bonne, un opéra improbable pour lui qui était l'Italien à Alger. Et puis, quand j'ai été nommé, M. Chung avait été venait d'être confirmé dans sa fonction de directeur musical par Pierre Berger. Et le problème qui a surgi entre lui et moi, qui s'est traduit par un divorce un peu difficile, c'était pas l'estime que j'ai portée toujours aux musiciens, ni la sympathie. On n'a pas eu le temps d'en avoir beaucoup l'un pour l'autre, mais là, le clash entre, d'une part, le statut que je venais d'inspirer, les pouvoirs qui m'étaient attribués et sur lesquels je tenais mordicus, et puis ceux qu'un contrat signé par Pierre Berger accordait au directeur musical, c'est-à-dire tout droit de regard et de veto sur tout ce qui était musical. Alors je veux bien qu'on m'explique ce qui, dans un opéra, ne relève pas de la musique. Autrement dit, Maestro Chung aurait pu user de ses pouvoirs sur les chefs d'orchestre, bien évidemment, le choix du répertoire, les chanteurs, les répétiteurs, la danse, etc., etc. Alors, je me suis rapproché de lui, on a eu des conversations parfaitement chaleureuses, cordiales, dans l'idée d'une collaboration. Je me serais vraiment bien passé d'une deuxième affaire Barenboim. On se souvient que Pierre Berger s'était séparé de Barenboim dans des conditions différentes, mais enfin, pas agréable pour la réputation de Paris ni de la Bastille. Et pour ce qui me concerne, j'étais prêt à travailler avec lui. Alors, lorsque Maestro Chung m'a dit, écoutez, vous aimez Mozart, j'ai dit oui, vous aimez Saint-Brahmer, j'ai dit oui, vous aimez Patricia, j'ai dit oui, vous aimez Strehler. Alors, puisqu'on aime la même chose, essayons. Alors, j'ai dit, écoutez, maître, non. Moi, j'ai 53 ans, je viens ici dans un contexte que je crois connaître. Je ne suis pas là pour faire un essai. Et par conséquent, on n'essaie pas, ou c'est vous, ou c'est moi. Ça s'est terminé comme je le souhaitais. En tout cas, je n'avais pas quitté la proie pour l'ombre. Je ne quittais pas Genève pour Paris. Paris n'était pas le prix à payer était trop fort. Et voilà, finalement, M. Chung est resté pour le plus grand plaisir des musiciens de la maison dans laquelle je suis pendant de nombreuses années. Et je pense qu'il continue sa carrière quelque part en Corée du Sud, qui est son pays.
Ouais. Vous nous dites bien quand même, Hugues, c'est une question de pouvoir. Vous disiez à un certain moment, enfin, le chef, c'est moi ici.
Mais vous savez, dans une entreprise aussi complexe qu'un opéra, et surtout l'opéra de Paris, avec les deux salles, le ballet, l'école de danse, les décisions à prendre en permanence, vous ne pouvez pas dépendre des hésitations ou des décisions de quelqu'un qui n'était pas moi, ça n'est pas possible. Alors donc, avec James, les choses étaient claires. James Conlon était mon conseiller musical, chef permanent, mais il n'était pas directeur musical, et nous n'avons jamais eu un problème. Je n'ai pas pris une décision sans lui demander son avis. Je présidais les concours de recrutement, mais ils étaient à côté de moi, et rien ne s'est fait sans son avis. Et dans ces conditions-là, l'attelage a très bien fonctionné, sans le moindre problème.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Vous évoquiez tout à l'heure Hugal Platé de Jean-Philippe Rameau, dirigé par Marc Minkowski. Et bien voici un extrait. Les dernières mesures de Platé de Jean-Philippe Rameau, dirigé par Marc Minkowski à Garnier en 2002, avec dans le rôle de Platé Jean-Paul Fouché-Court, qui était bouleversant là-dedans. On se souvient aussi de Mireille Delinche qui faisait une folie d'anthologie, tout ça dans la mise en scène de Laurent Pelli, l'un des grands spectacles de votre mandat à l'Opéra de Paris aussi, Hugues.
J'étais très heureux le soir de cette première et de toutes les représentations qui ont suivi. Je connaissais Platé, l'avoir entendu à l'époque où Sénéchal en était presque l'unique interprète. J'adore Rameau, je vous l'ai dit. Et Marc Minkowski a fait là un travail formidable avec Laurent Pelli. Ils sont devenus inséparables depuis, semble-t-il, et j'en suis heureux. Et Fouché-Court était le digne successeur de Michel Sénéchal dans ce rôle tellement bouleversant, cette pauvre grenouille. Enfin bref, et ce succès était dû à l'ensemble des musiciens du Louvre et des chœurs et de la distribution que j'avais pu réunir, et aussi bien sûr au talent extraordinaire qui a explosé dans cette conception de Laura Scozzi, la merveilleuse chorégraphe qui, comme on le sait, avait la tâche au moins égale à celle de Laurent Pelli pour agiter tout ce monde-là. C'était un spectacle formidable, j'ai été repris régulièrement, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. Enfin oui, c'est un de mes bons souvenirs et c'est une œuvre extraordinaire.
Vous dites que ce spectacle est devenu depuis, c'est important parce qu'il y a l'idée évidemment, l'Opéra de Paris que vous avez fort défendu, Hugues, du répertoire scénographique, c'est-à-dire que on est là pour faire des spectacles qui soient appelés à durer. On sait que votre successeur, par exemple Gérard Mortier, lui est venu avec un esprit plus festival, qui voulait trancher avec tout cela.
Je ne sais pas si c'était l'idée de Gérard, mais mon idée à moi, c'était que j'étais là pour construire ce qu'on appelle le répertoire. Il suffit pas de faire venir pour 6 représentations un spectacle de Munich ou de Hambourg, Santiago du Chili, pour l'avoir inscrit au répertoire de la maison. Et il s'agit de garder, si c'est bien, parfois ça l'est tout de même, c'est les œuvres données et sur lesquelles la maison a beaucoup travaillé. Pas seulement les décors ni les répétitions de chœur, mais l'orchestre. Imaginez, je pense au Moïse Aron que j'avais vu lors de la première saison de Stéphane Lissner, qui est un spectacle passionnant, magnifiquement donné. Et je regrette, pour ma part, j'espère que ce sera repris un jour, mais quand on imagine le nombre d'heures de répétition, de mémorisation de cette partition parmi les plus difficiles, qu'il soit pour l'orchestre aussi, cette mémoire-là, elle doit être exploitée. Je sais bien que nous ne sommes pas dans une dans un contexte de productivité, mais enfin voilà. Le répertoire, pour moi, c'est consubstantiel à l'idée que je me fais de la mission de service public qu'un opéra comme l'Opéra National de Paris se doit de remplir. Le festival, lui, a cette vertu de ne faire ce que Dornani a appelé en Allemagne Wegwerftheater, du théâtre qu'on jette dès qu'on l'a fait, parce que bon, très bien, on joue quelque chose, une conception est dérangeante, elle est magnifique au festival de Salzbourg, puis après c'est fini. L'Opéra de Paris, ça n'est pas ça. On reçoit pas tant d'argent, même si aujourd'hui il est un peu limité, de la nation pour faire un festival qui finalement ne profite qu'aux Parisiens, au parisianisme pire.
Thank you.
Le final de la Salomé de Richard Strauss, chanté en 2003 sur les planches de l'Opéra Bastille par Carita Mattila. C'était James Colon qui dirigeait l'orchestre de l'Opéra de Paris. À ses côtés, Chris Merritt, Agnès Silia et quelques autres encore. Hugal, on arrive à la fin de ces années à l'Opéra de Paris. En 2004, vous partez, j'ai l'impression, avec un peu de soulagement. Vous avez vécu de grands moments. On en a entendu quelques-uns tout au long de cette émission aussi. Les rapports avec les artistes, on l'a compris, ont pu être très beaux aussi. En revanche, les rapports avec l'institution ont été un peu plus compliqués. Le bilan pour vous de ces années-là, c'est comme avec l'idée, je crois, Hugal, du travail accompli. Il faut dire quand même que l'Opéra Bastille, ça a été une sacrée chose à lancer, un sacré vaisseau, et que la présidence de Pierre Berger, juste avant vous, n'avait pas vraiment permis de donner la légitimité à ce nouveau lieu. Le paradoxe, c'est que vous nous disiez bien, ce lieu-là, au départ, vous ne l'aimiez pas. Et votre maître, si j'ose dire, Rolf Liebermann, avait eu les mots les plus durs aussi contre la Bastille.
C'est-à-dire qu'on a construit, on a lancé cette idée d'un opéra nouveau, à un moment où moi je venais de quitter l'Opéra de Paris, et évidemment les salles étaient très souvent pleines, mais pas toujours, et je voyais cette ambition d'une salle de 2700 places, avec 400 spectacles par an, enfin c'était délirant, enfin délirant sur le papier en tout cas, et je n'y croyais pas vraiment, j'ai eu tort, et j'ai veillé pendant toutes ces 9 années à me donner tort à moi-même, je suis très fier d'avoir réussi sur ce plan-là en tout cas. Désormais, on n'imagine pas la vie musicale française ni parisienne sans l'Opéra de Paris. Et j'ai veillé surtout pendant ces années à veiller à ce que l'institution soit pas l'Opéra Bastille. On me dit toujours, est-ce que vous êtes directeur de l'Opéra Bastille? Non, je suis directeur, j'étais directeur de l'Opéra. L'Opéra, c'est le Palais Garnier, dans lequel on a vécu des moments extraordinaires, pas seulement pour la danse et la Bastille, où on a vécu des moments extraordinaires, pas seulement pour l'opéra, et j'ai réussi, je crois, cette complémentarité de ces deux scènes exceptionnelles qui fait de l'Opéra de Paris aujourd'hui, probablement l'institution, une des rares institutions les plus importantes au monde. La qualité, d'abord, l'orchestre est magnifique, les chœurs sont superbes, parlons pas du ballet, et puis l'offre que permettent ces deux scènes. À part le Bolshoï, je vois pas quel est le théâtre en Europe qui puisse proposer deux cadres aussi différents, aussi complémentaires.
La danse, vous dites n'en parlons pas du ballet, mais parlons-en quand même un peu, parce que votre période à l'Opéra de Paris, ça a été aussi celle de Brigitte Lefebvre, qui a été quelqu'un de très important pour vous, parce que vous adoriez la danse, vous êtes, j'ai l'impression, très bien entendu avec elle, elle a réalisé d'une certaine manière, côté ballet, ce que vous vouliez faire aussi côté opéra.
Oui, ça, c'est la danse est essentielle dans l'histoire de la maison, elle l'était encore davantage au moment où la Bastille a ouvert. J'ai trouvé le ballet en bon état, Patrick Dupont l'a abandonné, en tout cas les fonctions de directeur qui étaient les siennes. Je souhaitais d'ailleurs son départ, nous étions mis d'accord sur une formule qui n'a pas fonctionné. Peu importe, Brigitte, que je connaissais depuis très longtemps et qui était déjà dans la maison d'une certaine façon en qualité d'administrateur général du Palais Garnier, s'est vue proposer par moi la fonction de directrice de la danse. Elle l'a admirablement fait son job pendant les 9 années où j'étais là et par la suite, évidemment. Et nous avons travaillé dans la plus grande confiance et dans la plus grande liberté. Je n'ai pas accepté toutes ses propositions, elle n'a pas toujours accepté les miennes, mais enfin, là, c'est l'exemple d'un tandem qui a marché comme celui qui fonctionnait entre moi et James Conlon. Bref, je n'aurais pas fonctionné pendant 9 années avec une équipe avec laquelle je n'aurais pas pu avoir ce type de rapport. C'était impensable. Il faut de la confiance, de l'estime, de l'amitié. Et puis finalement que quelqu'un tranche, c'était moi. Mais en général, ça s'est fait de manière non sanglante.
Ouais. Pourtant, elle a du caractère, la Brigitte. Hein.
Mais tant mieux, et si vous voulez une confidence, moi aussi.
Extrait de la Damnation de Faust d'Hector Berlioz, ici donné à l'Opéra de Paris en 2001. On entendait les voix de Giuseppe Sabatini, José Vandamme, mais c'était Seiji Ozawa qui dirigeait ici dans cette production de Robert Lepage, qui avait fait, elle aussi, date durant votre mandat. Hugues Gallien, après l'Opéra de Paris, après 2004 jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait quand même pas mal de choses, beaucoup de postes honorifiques aussi, beaucoup de postes exécutifs, quelques-uns, et puis aussi, vous êtes une sorte de commandeur, faut le dire, Hugues Gallien, pour le monde lyrique aujourd'hui. Dans la pression, on a souvent dit qu'aucune décision ne se prenez sans vous, c'est toujours le cas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a fantasmé?
Ça, c'est le genre de rumeur, de fake news. Mmh. Heureusement, pour moi, non, je ne suggère rien à personne. Personne ne me demande mon avis. D'ailleurs, j'aurais bien du mal à le donner, parce que tout de même, je me suis éloigné de l'opéra depuis maintenant pas mal d'années. C'est un monde qui va très vite. Et pour ce qui concerne ceux qui sont capables aujourd'hui de diriger, je ne les connais pas. Donc, tout va très bien comme ça. Mmh.
Hugues Gallien, vous êtes depuis 2002 membre libre, comme on dit, de l'Académie des Beaux-Arts. Vous y faites pas mal de choses. Là-bas, recevez des gens, tout récemment Bruno Mantovani. Et puis, avez un rôle, enfin, qui est, je dirais, à la fois honorifique, de représentation, qui, j'ai l'impression, vous plaît pas mal.
Écoutez, on m'a sollicité, j'ai été élu. Je suis très flatté d'être membre de l'Institut et membre de l'Académie des Beaux-Arts, où je rencontre des gens de toutes les disciplines, des grands architectes, des compositeurs, mon ami Mantovani notamment, mais pas seulement. Et puis, ce que l'Académie m'a apporté comme cerise sur le gâteau à la fin de ma carrière, c'est de me confier quelque chose qui me passionne et qui est la direction et la gestion de la Fondation Claude Monet, qui n'a pas grand-chose à faire avec l'opéra, mais peut-être un peu avec la musique tout de même, la Fondation Claude Monet de Giverny, qui est une affaire qui est essentielle d'abord sur le plan artistique, parce que le jardin de Claude Monet, comme vous le savez, était considéré et est toujours considéré comme un de ses chefs-d'œuvre, et d'autre part dans la vie économique de la Normandie, et peut-être même de la région parisienne, les 700 000 visiteurs qui se pressent à nos portes pour les 7 mois d'ouverture entre le 1er avril et le 1er novembre sont des éléments très importants pour la vitalité de toute cette région, la région autour de Vernon, pas loin de Paris. Donc ça m'amène à gérer une PME et artistique avec des tulipes qui poussent sans faire la grève et des jardiniers extrêmement compétents et tous très dévoués à cette merveille qu'est Giverny.
Merci beaucoup, Hugues Gallien, d'avoir accepté cette émission pendant ce mois de juillet en entier. On a découvert plein de choses avec vous sur l'opéra, puis on vous a peut-être découvert aussi un peu à titre personnel. On va refermer cette émission et cette série avec Capriccio et René Fleming. Une fois encore, c'est un des plus beaux spectacles qui a été donné, certainement, l'Opéra de Paris durant votre mandat. Non, le genre de choses dont on peut être un peu fier.
Si vous le dites, je ne vais pas vous contredire. En tout cas, c'était mon souhait de terminer mes 9 années par cette représentation d'un ouvrage qui met en scène une chanteuse qui met en scène un personnage clé qui est le directeur de théâtre, avec une distribution qui se bagarre pendant 2 heures pour savoir de quoi est fait la musique et ce qui est le plus important des mots ou de la partition. Bref, tout ça a été mis en scène brillamment par Robert Carson, qui a exploité le Palais Garnier et le foyer de la danse en l'intégrant tout cela, cette esthétique Napoléon III dans ce spectacle. C'était magnifiquement chanté, très bien mis en scène, Une petite déception, mais enfin, elle était pour moi. Mon ami Christian Thielemann, que j'ai connu à ses débuts, m'avait promis de diriger ce spectacle, pour des raisons qui lui appartenaient. Il n'a pas pu venir. Ben, mon Dieu, le spectacle a eu lieu dans de très bonnes conditions musicales. En témoigne un enregistrement que vous allez pouvoir nous donner.
Absolument. Merci, Hugal.
Thank you.
Les dernières mesures de Capriccio de Richard Strauss dans cette production devenue célébrissime signée Robert Carsen pour la mise en scène. Ulf Schirmer était ici en ce 2 juillet 2004 à la baguette. La voix était bien sûr celle de René Fleming. Nous étions ce matin avec Maud Nourry, Antoine Courtin, Ludovic Auger et José Bernès. Je vous retrouve la semaine prochaine. Nous serons au mois d'août. Ce sera la deuxième partie de nos mémoires d'opéra qui seront consacrées pour ce mois d'août donc à Raymond Dufau. Vous écoutez France Musique. Il est midi tout juste. Voici Nathalie Moller, une heure pour danser.
À réécouter sur francemusique.fr.